C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI avec évidemment toujours de l'actualité autour du ballon rond. Et nous allons donc nous attacher à ce championnat de France et à des dogs en chien de garde hier soir à Lille qui ont à leur tour empêché le PSG d'être champion en digne dauphin des futurs vainqueurs de ce championnat de France. Les Lillois ont même humilié les Parisiens en leur infligeant 5 buts du jamais vu depuis que le Qatar a racheté le club. Et l'Ivoirien Nicolas Pépé a capté la lumière, laissant dans l'ombre et tout à sa visible frustration le champion du monde Kylian Mbappé. Que se passe-t-il au PSG? Il semble que Manchester United a déréglé la machine gagnante de Thomas Tuchel. Des cris racistes entendus dans un stade de Ligue 1, c'était à Dijon lors de la rencontre Dijon-Caen et contre le capitaine de cette équipe de Caen. La réaction de Prince Désir Guano est d'une incroyable dignité, en rien une vengeance, honte à celui qui l'a insulté. Un retour sur la CAN 2019, maintenant que le tirage au sort est connu, avec les commentaires d'Hervé Renard et de Gernot Rohr, deux sélectionneurs d'équipes favorites. Les grandes équipes sont-elles favorisées par ce tournoi élargi? Le premier tour servira-t-il à bousculer la hiérarchie FIFA? C'est une question qu'on se posera et d'ailleurs nous en profitons pour donner tous, nous de Radio Foot, un salut très amical à tous ceux qui nous ont aidés au Caire pour les émissions que nous y avons réalisées et aussi tous ceux que nous avons rencontrés, retrouvés lors de ce tirage au sort. Nos invités du jour, Karine Galli, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. J'étais pas au Caire, mais j'étais à Lille.
Ouais.
Bon, c'est pareil. Fait ce qu'on peut. Hein.
C'est pareil, c'est vrai, des pyramides.
Écoutez, j'ai pas vu de pyramides. Hein. Je les ai cherchées, j'en ai pas vu.
Mais il y a des terrils.
Naïm Moniol, bonjour.
Salut Annie, salut à tous.
Et Xavier Barret.
Oui, bonjour Annie, bonjour
côté.
À
bonjour
tous.
Bonjour Xavier. Éric Mamrut, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Il y a aussi un autre personnage qui était à Lille hier parce que vous n'y étiez pas toute seule, Karine. C'est Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Vous aussi, vous avez assisté à ce spectacle
c'est
hier.
C'est ça, comme Karine, pas de
il y avait
pyramide,
du monde,
mais
c'est... pas toujours plein hein, au Lille Stadium là, mais hier c'était plein.
Il n'y avait pas de pyramide, mais c'était un sacré souk a priori.
Oh, ça vous inspire, ça vous voilà. Inspire. Une petite correction à propos de Prince Désir Guano,
ouais.
Il est amiénois. Quand je regarde, j'ai honte de ce que j'ai dit, excusez-moi, c'est le décalage horaire, c'est le retour d'Égypte.
On vous pardonne tout, Anne.
Ah, c'est tout ça. Allez, Radio Foot, c'est parti.
Il y a quelque chose à faire.
Allez, un coup à jouer peut-être avec Rémi.
Oh, ah, le bruit, un bon ballon pour Nicolas Pépé.
Pépé, Pépé
seul face à
seul face à voilà, Nicolas Pépé.
Et c'est le but de Nicolas Pépé.
Nicolas Pépé.
Oh, yes.
Tu gagnes son duel.
Bamba peut-être, la frappe de Bamba. Et cette fois, c'est cadré. Cette fois, c'est une belle lunette. Jonathan Bamba. Pépé, la tête de José Fonck, 5 buts à 1, l'arraché, Sidi Lille.
Et oui, les Lillois ont longtemps, très longtemps fêté leur victoire hier soir sur la pelouse du stade, n'est-ce pas Martin? Plus d'une demi-heure après, ils étaient encore là en train de s'amuser tous ensemble.
On les a vus, ouais, surtout Nicolas Pépé et Jonathan Bamba qui étaient là comme des gamins, ils se roulaient par terre, ils avaient des petits ballons. On l'a vu aussi dans un drapeau ivoirien qu'il a dû trouver en tribune, mais ils ont fait un très long tour de bonheur devant leurs supporters, ils ont bien profité.
Ouais, les supporters qui eux aussi ont bien profité du spectacle. Soir de fête donc, après un match qui restera dans les annales, une belle victoire du LOSC sur le champion PSG que l'on croit trop souvent intouchable et une prestation donc à la hauteur du statut de dauphin auquel ils prétendent et pour l'instant ils s'y accrochent à cette deuxième place. Les Lillois ont un soir encore donc empêché le puissant PSG de brandir sa couronne, repoussant l'échéance et de quoi rendre Nicolas Pépé très très satisfait. Écoutons-le à votre micro.
C'est super, surtout face au Paris Saint-Germain qui était voilà, qui est quasi assuré d'être champion. Maintenant, c'est une belle fête, surtout de gagner 5-1. C'est pas donné à tout le monde de mettre 5 buts au Paris Saint-Germain, malgré qu'ils étaient voilà, à 10. Mais voilà, on a fait du beau jeu ce soir. On a respecté le plan de jeu du coach, on était en bloc. On a procédé en contre, on a eu des opportunités, on aurait pu même en mettre plus. On va fêter ça et voilà, on a encore un match à faire contre Toulouse et voilà, maintenant, il faut encore gagner encore 2-3 matchs pour au moins être assuré d'être en Ligue des Champions.
Martin, 5-1, score final, il y a eu donc un seul but du côté des Parisiens, mais du côté des Lillois, on a l'impression que la note aurait pu être encore plus salée.
Oui, on pense notamment à Nicolas Pépé qui aurait pu en mettre un deuxième, lui qui a déjà mis un but et qui a fait 2 passes décisives. À un moment, il s'est représenté exactement dans la même situation que son but, il part tout seul face à Raiola, mais cette fois, il tente de le dribbler. Raiola qui finalement, du bout des doigts, qui rattrape cette balle et on pense aussi à des actions de
Bamba,
là, mm-hmm. qui a une grosse frappe en deuxième période. De toute façon, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, on a vu que Lille et on peut dire
en deuxième période
oui, ouais. on peut dire que Paris a perdu le Nord.
Oui.
Sur ce verbe.
Oh là là.
Non mais il y a un peu de Nabil Djellit dans cette salle en fait.
Quel talent.
Il y a peut-être une explication aussi à ça. Le fait que le PSG soit à 10 pendant toute la deuxième période et déjà dès le milieu de la première période, ça explique
nous,
quand même
c'est
beaucoup
pas
de
la
choses.
Première fois que Paris réduit à 10, c'est pas pourtant qu'il prend une trempe comme ça.
Mais il joue. Je pense que les circonstances du match faisaient effectivement que Paris Saint-Germain était exposé plus que d'habitude. Parce qu'ils jouent, d'ordinaire, ils ont la possession. Donc effectivement, face à des blocs défensifs, ils ont l'habitude de faire tourner. Mais là, ils se retrouvent en infériorité numérique face à une équipe qui joue en plus très bien le contre et dont c'est la spécialité. Donc effectivement, ils étaient doublement exposés.
Trois champions du monde sur la pelouse, plus Verratti, c'est-à-dire Kimpembe, Mbappé, Draxler, Verratti. Et tu prends 5 buts contre Lille.
Mais
Cash au plus du monde, il y avait Areola dans les buts. Quand bien même Lille sera en forme, Pépé, Bamba serait de très bons joueurs. Ça, c'est pas une défaite 1-0 sur le fil. Tu prends une trempe 5-1, t'es inexistant en deuxième mi-temps, Xavier.
C'est
ça ne peut pas se justifier uniquement par une infériorité numérique.
Difficile de défendre le PSG après ce résultat, mais l'infériorité numérique explique beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où ils se retrouvent en infériorité numérique, ils continuent à jouer leur jeu d'attaque et ils s'exposent de plus en plus avec un défenseur.
Xavier, cette défaite, c'est deux choses. C'est le point d'orgue d'une dynamique engagée contre Manchester United au match retour. Alors allez-y, Annie.
On va s'arrêter après sur les causes de la déroute du Paris Saint-Germain, mais je voulais quand même qu'on rende honneur aux Lillois quand même, parce que ces Lillois, on a eu l'impression, Karine et Martin, que pendant tout le match, ça montait en puissance pendant toute la partie. Rappelons qu'ils avaient perdu au match aller au Parc des Princes sur le score de 2-1.
Oui, et moi j'avais été extrêmement déçu du match aller, j'avais pas eu la même analyse que celle de Christophe Galtier. Hier, moi ce que j'ai beaucoup aimé, oui, je veux bien le PSG a 2 blessés, le PSG est réduit numériquement. Mais ce que j'ai adoré, c'est que Lille, effectivement, c'est normal, ils jouent sur leur qualité, c'est prendre la profondeur, c'est avoir 3 attaquants, notamment très rapides. Ils l'ont fait très bien, ils ont joué collectif, on n'a pas vu le show Bamba, le show Pépé, le show Iconé, on a vu une équipe qui jouait comme une équipe et on a vu des joueurs qui n'arrêtaient pas. Quand tu as 3-1 face à Paris, tu peux dire qu'on va être un petit peu plus mesuré, que tu vas pas continuer à attaquer. Eux, jusqu'au bout, ils ont essayé de mettre un but en plus, ça s'est fini à 5-1, mais ça aurait pu être encore plus lourd. Donc je trouve que Lille a été parfait au niveau de l'état d'esprit, au niveau du contenu, au niveau de l'envie et aussi de la justesse. Et du côté de Paris, je suis désolé, t'as notamment 2 buts qui sont pris sur coup de pied arrêté, il n'y a personne au marquage, mais personne. Et ça, que tu sois à 10, à 12 ou à 24 sur le terrain, si t'as des joueurs qui sont pas du tout...
Karine, bah
oui,
tu
excuse-moi,
ça, non,
t'as vu le but de Ponte, il n'y a personne au marquage.
Quand tu cours pendant 90 minutes et que tu es un de moins, et ben il y a un moment où tu es plus fatigué que l'adversaire.
Et donc tu peux pas être présent sur les coups de pied arrêtés notamment.
Tu es plus fatigué que l'adversaire, tu sautes moins haut. Il faut tous les gens qui ont joué au foot le savent ça. Mais faut arrêter.
Mais bien sûr j'ai joué au foot.
Et ben quand t'as couru pendant 90 minutes et que tu es un de moins,
mais t'as pas couru pendant 90 minutes.
Paris n'a pas couru pendant 90 minutes.
Ils prennent tous les buts en deuxième période. Mais non, mais on dirait que vous avez pas vu le même.
Mais Paris n'a pas couru pendant 90 minutes.
Vous courez tous au secours de la victoire. Lille est une très
belle équipe, je vais pas dire le contraire.
Au secours de la victoire,
oui,
mais
c'est
au
une
secours,
équipe. Mais non, mais là on est là, ça y est, c'est des tyrambiques, le PSG est nul, le Lille est super fort. Il y a 20
points
pratiquement. Il y a 20 points d'écart entre les deux. Il y a 20 points d'écart. Il y a eu un accident comme malheureusement le PSG en arrive en
supporte.
Non, mais il y a eu une équipe qui a joué à 10 pendant plus d'une heure et vous trouvez que tout d'un coup ils sont nuls. Non,
on n'est pas là pour accuser le Paris Saint-Germain, on est là pour essayer de comprendre la prestation de Lille.
C'est ce dont je parle aussi.
Et je vais me joindre aux propos de Karine. C'est gloire soit rendue à Christophe Galtier qui fait un travail extraordinaire. Et il y a beaucoup de similitudes entre le Lille qu'on avait hier et le Saint-Etienne de l'époque Aubameyang-Brandao, où c'était tout pour l'attaque, où ça jouait très très bien. Et hier à 3-1, il peut effectivement sortir un attaquant et faire rentrer un milieu défensif, un défenseur. Il a joué jusqu'au bout, il l'avait prévenu. À un moment donné où Lille est moins bien sur les dernières semaines, où il lâche un petit peu de terrain, alors Lyon on profite pas, mais il lâche un peu de terrain. Bravo sur ce qu'il a fait, sur la manière de les a préparés et sur sa communication d'après-match. Il pourrait fanfaronner, je vais te dire. Il le fait pas. J'espère que d'ici quelques semaines, quand on va remettre le trophée de meilleur entraîneur de l'année, il l'aura. Parce que sincèrement, il le mérite.
Galtier avait gagné la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne.
Bien sûr.
Il avait fait un trophée qu'il n'avait plus depuis des années. C'était l'époque.
Non, mais il faut se rendre compte d'un truc. Quand on parle de Lille, on parle d'une équipe qui a dû changer 7 ou 8 joueurs dans son 11 de départ par rapport à l'année dernière. Il faut se rappeler ce qu'était Lille l'année dernière.
Une équipe qui jouait le maintien avec des joueurs en papier.
Là, mais... il a pris des mecs. Il n'y a aucune star dans cette équipe. C'est soit des mecs qui viennent de plus petits clubs de Ligue 1, soit de championnats étrangers et aucun gros club. Il a fédéré dès le début de l'année son groupe. Il y a un état d'esprit irréprochable. Il joue sur les qualités de ses joueurs. Il pourrait dire à des mecs comme Bamba, comme Pépé, vous allez vous fondre dans le collectif, on est en Ligue 1, machin. Il les laisse, entre guillemets, flamber, faire leur show, marquer des buts, se régaler. Il sait qu'il va le perdre, Pépé. Hein. Il n'y a pas de souci, il est au courant. Il capitalise à fond sur les qualités de ses joueurs.
Le président l'a déjà dit hier.
Il ne va pas perdre que Pépé, d'ailleurs.
Oui, mais enfin, quand tu as la Ligue des Champions, tu as plus de chances d'en garder un ou deux quand tu ne la joues pas. Donc bravo à lui.
Martin.
Non, juste pour confirmer ce que disait Naïm ou ce que disait Karine, ce qu'on a vraiment vu, c'est une joie de vivre aussi, un groupe ultra soudé et chacun qui joue pas juste pour lui, mais par exemple le but de Pépé, c'est un modèle de contre parce que c'est d'abord Ikoné, puis qu'il joue en remise sur Rémi, puis qu'il joue sur Bamba, ça revient sur Ikoné, il lance Pépé, enfin tout le monde touche
Bamba,
la balle.
Il y a 31 passes avant le but, c'est la plus longue séquence de possession qui mène à un but en Ligue 1 cette année. Voilà. Ça, tu l'avais pas, Xavier Paré.
Tu l'avais pas, tu sautais moi en haut, là. C'était pas le guignol, là.
J'ai pas dit que Lille jouait mal. J'ai dit que Lille, et je répète ce que j'ai dit en début d'émission, que Lille était une équipe qui jouait parfaitement le contre et qu'ils avaient eu hier soir l'adversaire idéal.
Voilà. Parlons-en de Lille, parce que vous le rappeliez, et c'est important, il y a 20 points d'écart, hein, c'est ça, entre.
Il n'y a plus que 17.
Il n'y a plus que 17,
pardon. 17, oui, évidemment.
Mais Paris a un match en moins, hein. Il a joué à Nantes mercredi.
Non, bah, on va voir. Tout à l'heure, vous nous parlerez des Canaries. Mais pour ce qui est de Lille, Karine, pourquoi sont-ils si loin finalement, on peut se demander. Ça fait très longtemps qu'ils sont accrochés à cette deuxième place, Lille, et qu'ils sont partis aussi en échappée, mais on a l'impression qu'ils ont raté un wagon que le début de saison quand même par rapport au PSG, ou alors ils sont moins linéaires.
Il y a quand même un monde entre Lille et le PSG, je veux dire, comme l'a dit.
Non, bien sûr, mais on a l'impression qu'il y a aussi un monde entre Lille et, je sais pas, et Monaco.
Non, mais Lille, c'est une équipe qui s'est construite avec des joueurs qu'on ne connaissait pas, ou des joueurs qui ont franchi un palier. Nicolas Pépé de Angers et Nicolas Pépé de Lille, c'est plus du tout les mêmes joueurs. C'est un joueur qui manquait d'efficacité, c'est un joueur qui marquait quand même peu de buts, alors que c'était un attaquant qui n'avait pas non plus trop la confiance de Stéphane Moulin.
Bamba, voilà. Entre le Bamba de la Belgique et celui de Lille, il y a un monde. José Font, il vient de Chine, enfin, faut se rappeler de tout ça.
Il connaît à Montpellier, il franchit un palier. Après, Cheka,
c'est déjà en même temps, il connaît Bamba Pépé.
Oui, voilà, non, mais bien sûr. Cheka, il était à Dijon prêté, il est au milieu de terrain, il fait un bien fou. Et après, c'est aussi une équipe qui parfois avait du mal face au club qui jouait très regroupé. C'est une équipe qui a besoin d'espace, et là je suis d'accord avec Xavier, et parfois quand il jouait face à des adversaires qui évidemment étaient avec deux lignes resserrées, et ben Lille ne trouvait pas les situations, n'arrivait pas à s'en sortir par un exploit personnel, ce qui arrive à Paris, mais Paris évidemment a quand même plus de talent et a plus de joueurs qui sont capables d'un exploit personnel, évidemment. Mais à côté de ça, finir deuxième même à 20 points, c'est déjà très bien. Ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer les premiers rôles, et ils arrivent à tenir cette deuxième place, ils arrivent à faire des grands matchs. Et hier, même si Paris a été bidon, même si Paris était à 10, Lille a fait un grand match. Moi, c'est ça que je retiens en premier.
Alors Lille, c'est effectivement un collectif, il n'y a pas vraiment de stars, mais en même temps il y a Martin, ce trio, ce trident fou, et là-bas on l'appelle la bip bip, donc c'est un trio qui fait bip bip assez souvent apparemment.
Ouais, bah deux gauchers, Ikoné, Pépé, un droitier, Bamba, et qui sont en soutien de Loïc Rémy qui marque un petit peu moins, qui est lui un peu moins flamboyant, mais en tout cas hier ouais ils sont régalés les trois artistes et avant tout Pépé hein, quand même qui provoque d'abord le rouge de Bernat puis qui déclenche tout après, qui marque puis qui fait deux passes décisives. On dit qu'il est toujours présent sur les gros matchs, il avait déjà marqué au match aller contre le PSG, il avait déjà marqué contre Marseille, il a marqué contre Lyon, il marque à chaque fois et là il le prouve encore. Deuxième. Et il l'a dit d'ailleurs en zone mixte après que lui c'était comme on a entendu tout à l'heure que c'était les gros matchs, c'est ce qui le motivait plus.
Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, co-meilleur passeur, il est décisif toutes les 53 minutes, ça doit être quelque chose.
Il a marqué
chose
plus de 50%, enfin il est impliqué dans plus de 50% des buts de l'équipe.
Il est décisif au minimum une fois par match, mais il faut le dire, c'est pas parce que c'est un joueur qui ne joue pas au PSG ou à Lyon ou qu'il est ni international espagnol ou allemand. Pépé a franchi un cap terrible, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et pas uniquement de Lille, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 de notre championnat et il va partir dans un club, je l'espère pour lui, UP, qui va lui permettre de progresser, de bonifier son talent et de jouer la Ligue des Champions tous les ans, parce que sur ce qu'il monte cette année, il le mérite.
Eric, justement.
Pépé, c'est 19 buts et 11 passes décisives, ouais. Très exactement, au jour d'aujourd'hui, donc pour l'international ivoirien qui a déjà dépassé son total de la saison dernière, 17 buts toutes compétitions confondues. Jonathan Bamba, puisqu'on parle de ce trio, de ce bip-bip, qui a 23 ans également comme Pépé, 11 buts, une passe décisive. Il en avait marqué 7 l'an passé avec Saint-Etienne, mais il n'était pas toujours titulaire avec les Verts. Lui, il est d'origine ivoirienne, mais il joue avec
International
les
Espoir français.
Oui. Voilà. Et le troisième de la bande, le plus jeune, 20 ans, Jonathan Ikoné, qui lui est d'origine de République démocratique du Congo. Lui, il est surtout passeur. 7 passes décisives, il a quand même mis 2 petits buts.
Et ce qui est bluffant, moi aussi, je trouve, sur Pépé, c'est que c'est un joueur qui a joué tous les matchs de Ligue 1. Il n'a jamais été blessé. On verra dans la suite s'il arrive à enchaîner les saisons comme ça. Oui. Mais c'est un joueur qui a participé aux 32 matchs de son équipe, puisque Christophe Galtier fait de toute façon très peu tourner.
Été dérangé par les matchs de coupe cette saison, Lille.
Toi, t'es anti-Lillois aujourd'hui.
Non, mais j'ai rien compris. Heureusement que je tempère vos 38
matchs. Mais est-ce que tous les attaquants font tous les matchs?
Ça dépend, mais de toute façon, ils n'ont pas eu beaucoup de choix puisqu'ils se sont fait éliminer très vite de la Coupe de la Ligue, aussi de la Coupe de France.
Enfin, Marseille aussi, ils se sont fait éliminer de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France.
Je défends pas l'OM pour autant. Mais je fais cette remarque complémentaire qu'effectivement, Christophe Galtier fait peu tourner parce qu'il a que le championnat.
J'aime pas la province, toi.
Non, j'ai rien contre la province, mais non, qu'est-ce que en tu tout cas, sors je suis très content de ce que fait Lille. Maintenant, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire la saison prochaine en Ligue des Champions.
Tu sais très bien qu'ils vont se faire dépouiller.
Tout à l'heure, Xavier, parce que non, c'est au-delà qu'ils vont se faire dépouiller. C'est que le modèle lillois, c'est un modèle de trading. Exactement. Et qu'effectivement, il va vendre tous ses joueurs pour se rembourser.
Ben oui. Donc,
c'est un modèle de trading qu'ont adopté la moitié des clubs européens. Ça ne dérange personne.
En tout cas, Eric, ce qu'on peut ajouter, c'est que Nicolas Pépé est aussi sur la liste des 10 joueurs en course pour le prix Marc Vivien Foé.
Ah oui, bah. Pff,
bon. Oui. Est-ce qu'il existe un suspense
il y a 10 noms.
On lui a fait toute sa publicité aujourd'hui. S'il reste quelques gens qui doivent voter, bon, bah, ce seront fait.
Donc, quand est-ce que le prix va lui être remis? Je pose la question.
Ah, bah, ça sera le. Mais Karine, vous votez, vous faites partie de notre jury.
Bah oui, mais je veux savoir pour être là le jour
13 mai.
Voilà, donc le 13 mai, le prix lui sera remis.
Oui, on espère qu'il sera là pour le recevoir.
Il viendra.
Espérons encore. Espérons. En tout cas,
Karine, il va venir.
On va parler des Parisiens quand même, les Parisiens qui faisaient pas le figure, donc, même s'ils avaient plutôt bien débuté la rencontre. Hein. Martin, d'ailleurs, il y a un but à la troisième minute de Mbappé qui est refusé.
Bah, il n'a pas été très chanceux, Mbappé, il en met 2 hier, 2 fois hors jeu, donc il réalise quand même une passe décisive. En première période, c'était quand même les Parisiens.
Très belle passe décisive.
Ouais, très très belle pour Juan Bernat. Ouais. Et, on pensait quand même, vu de la première période, que les Parisiens, c'est eux qui étaient le mieux rentrés dans le match, même s'ils commencent par un but contre leur camp de Meunier, ils réagissent tout de suite et ils ont des occasions après. On s'imaginait vraiment pas du tout à ce naufrage-là.
Ben non, et tout d'un coup, d'habitude c'est bleu, mais là on a vu des vagues rouges, hein, c'était pas la mer, c'était vraiment les vagues de l'enfer pour ces Parisiens. La mer rouge, oui, on l'a pas vu. On a vu que le Nil, on n'a pas vu la mer rouge. En tout cas, Kylian Mbappé, toujours l'un des meilleurs de son équipe quand même, et bien à la fin du match, alors déjà sur le terrain, on l'a vu nerveux, râler et tout ça, mais aussi calmer ses camarades. Et à la fin du match, écoutons-le, il cachait très mal sa frustration sur la pelouse et en sortant du terrain.
Ils ont une bonne équipe, donc félicitations à eux. Voilà, et devant un beau public, beau stade, mais c'est nous. Je pense qu'on doit jouer avec plus de personnalité. Et je pense que c'est un de nos défauts. Et il va falloir vite corriger ça. Des fois, il faut pas aller chercher trop loin. Là, on va chercher trop loin. On va nous parler de club, de je sais pas quoi. Ça, le foot, ça se joue sur un terrain. Aujourd'hui, voilà, on a joué comme des débutants. Maintenant, voilà, il faut se reconcentrer. Il y a un match mercredi, mais je pense qu'il faut arrêter de perdre comme ça.
Il faut arrêter de perdre comme ça, on a manqué de personnalité. Alors, c'est la version de Kylian Mbappé, mais vous allez entendre Thomas Tuchel. Lui aussi est assez en colère, mais alors ben, il ne voit pas les mêmes raisons à l'échec de son groupe.
Ce n'est pas possible. Cette défaite montre une autre chose. Elle montre une autre personnalité dans tous les saisons. Parce que tout le monde pense que ça c'est normal, que Juan Bernat, il joue 10, il joue à gauche, il joue au milieu. Tout le monde dit que c'est normal parce qu'on gagne, on gagne, on gagne. Mais c'est pas normal. Et cette match aujourd'hui montre la mentalité extraordinaire jusqu'au c'est bon. Mais maintenant, c'est trop. C'est trop. Sans Marquinhos, sans Thiago. C'est trop. Lille, c'est une équipe fantastique. On doit avoir la qualité si on veut gagner ici. On doit être en forme.
Il est très très en colère, ouais. Thomas Tuchel, et on se souvient de notre invité Marcus Kaufmann qui était venu nous présenter son livre et son portrait de Thomas Tuchel juste avant la déroute face à Manchester United. On a l'impression de voir le Thomas Tuchel allemand en ce moment. Celui dont il nous parlait lui en disant qu'il avait des fois laissé une image un peu brouillée.
La semaine dernière ou il y a deux semaines, je soulignais quelque chose, c'est qu'il était devenu extrêmement nerveux depuis la défaite contre Manchester United. Et très sincèrement, j'aime pas l'hypocrisie dans le football. Je ne l'aime pas chez Rudy Garcia, par exemple, ni chez Jean-Michel Aulas, et je l'aime pas chez Thomas Tuchel. Parce que cette manière systématique de ramener tous les mauvais résultats de son équipe ou les prestations moyennes sur l'absence de joueurs, sur l'absence de recrutement, sur un effectif pas étoffé, ça m'énerve. Le premier responsable de la manière dont joue son équipe, c'est lui. C'est lui le coach.
Et les choix aussi, les choix de qui il aligne sur le terrain.
Les choix d'hommes, c'est lui. Les dispositifs tactiques, c'est lui. C'est lui qui fait le coaching, c'est lui qui parle à la mi-temps, c'est lui qui fait les séances d'entraînement, c'est lui qui fait la vidéo. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout ne peut pas être mis sur la responsabilité d'Antero Henrique. Il fait des mauvais choix, il a mal préparé ses joueurs, il a à mon avis un discours qui, dans les moments de difficulté, soit ne passe pas, soit ne sont pas très bien appliqués, et tout ça c'est aussi sa responsabilité. Faut pas uniquement mettre tout sur le dos d'un effectif moyen, parce que je vais vous dire un truc, des effectifs moyens en Europe, des effectifs très peu fournis, vous en avez par exemple à Liverpool, Jürgen Klopp tourne avec très peu de joueurs finalement. Ils vont se qualifier pour la demi-finale de Ligue des Champions, ils sont leaders de Première Ligue, c'est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs en Première Ligue.
S'il te plaît, tu n'es pas au courant.
On n'a pas les mêmes chiffres. Et aujourd'hui, vous regardez le PSG, il y a un tel écart entre les remplaçants qui sont aussi issus de son travail à lui, hein, Kerrer, Choupo-Moting et les titulaires, que tout ne peut pas être imputable sur le dos d'Antero Henrique.
Mais n'empêche, ça fait la 8e fois de la saison déjà que Tuchel aligne une feuille de match avec moins de 18 joueurs. Alors effectivement, il aurait peut-être pu aller piocher dans les moins de 17 ans, j'imagine, mais donc il fait le choix n'emporter que des joueurs compétitifs. Alors effectivement, on peut dire c'est super, le PSG n'a pas d'excuses. Ils ont joué pratiquement tout le match à 10, mais c'est pas une excuse. Ils ont des joueurs blessés, mais c'est pas une excuse, et ils ont pas un effectif suffisamment compétitif pour jouer sur tous les tableaux.
Mais c'est pas ça.
Donc c'est super, continuons comme ça, c'est des débats vachement instructifs.
C'est aussi qu'on a l'impression quand il cite Rabiot dans l'interview qu'il donne à Canal Plus,
et Diarra,
il cite des joueurs. On connaît l'histoire Rabiot, et tout d'un coup, il nous parle de lui comme
vous
si.
Vous n'avez pas compris pourquoi il déclare ça?
Mais non, mais bien sûr.
Pour mettre la pression sur son directeur sportif.
Merci de l'explication. On a bien compris qu'effectivement, c'est un message d'abord à but interne. C'est effectivement de dire voilà, donnez-moi les moyens la saison prochaine de mener
à bien.
Est-ce que je peux finir? Si, donnez-moi les moyens de mener. Ma mission sur tous les tableaux. Galtier fait effectivement une très belle saison avec Lille en ne jouant que la Ligue 1, alors que le Paris Saint-Germain a joué, lui, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Bon, ils se sont fait borgner par Guingamp en quart de finale. Et la Ligue des Champions.
Tout le monde sait bien qu'il faut 30 joueurs pour gagner la Ligue 1 quand on s'appelle Paris, Xavier.
Encore une fois, je répète, je viens de dire pour jouer sur tous les tableaux. Mais Naïm, comme tu ne m'écoutes pas, effectivement, je continue à mener ta barque sans m'écouter.
Mon oreille n'intègre pas les bêtises.
Moi, effectivement, je trouve qu'il y a un souci dans la communication de Tuchel et aussi dans ses choix, parce que par exemple quand il fait des achats en toute fin de mercato et des achats qui sont quand même lourds pour le PSG par rapport à leur enveloppe, c'est ses choix à lui. Kerrer, il l'a choisi et ça coûte cher quand tu sais que le PSG a une enveloppe qui est limitée parce que tu as notamment le fair play financier. Là où après je trouve ça un peu facile, c'est que les problèmes de blessés, c'est le PSG, donc aussi lui, qui est responsable. Tous les clubs sont en forme en mars, avril, mai pour aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Et au PSG, tu as une épidémie de blessés. Il a sa part de responsabilité là-dedans. C'est pas juste
l'équipe médicale du club.
Alors, ce que vous dites,
c'est global. Chaque année au PSG, quand c'est les gros matchs, ou un petit peu avant, tu as une hécatombe de blessés. Mais dans les grands clubs, ça n'arrive jamais. Ben, c'est bien que c'est préparé en avant.
Ce que vous dites, Annie,
c'est le Real Madrid.
L'Atlético de Madrid, combien de joueurs avait l'Atlético de Madrid ce week-end? Combien de joueurs Diego Simeone il avait?
Mais
il en avait 12.
Tu regardes ce qu'ils font, la Juve ou le Real Madrid.
Je te donne un exemple. Tu dis la Juve. Moi, je te donne l'Atlético de Madrid.
Chaque année, le PSG n'a pas ses joueurs quand il faut.
Non, mais c'est pas un hasard. Il y a des clubs qui, effectivement, ont des blessés. Et quelque part, là, j'ai apporté un peu d'eau à ton moulin. Manchester United s'est présenté contre le PSG avec énormément de blessés. Donc, c'est pas propre au Paris Saint-Germain. C'est propre à tous les clubs.
Non, le PSG a ce même problème chaque année. Non, le PSG a ce même problème chaque année.
Beaucoup de blessés.
Mais
non, il y a des grands clubs qui ont des blessés, mais pas tous les clubs.
Mais je me souviens, par exemple, Arsenal, on en parlait souvent en se disant, mais qu'est-ce qui se passe à Arsenal? Parce qu'effectivement, ils avaient tous les ans énormément de joueurs blessés et il y avait des problèmes entre eux et la cellule.
Mais c'était un vrai problème à Arsenal et il n'a pas été réglé pendant des années.
Quand vous parlez de l'équipe médicale, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est qui l'équipe médicale au PSG? Alors il y a celle que Thomas Tuchel a ramenée, évidemment, ça c'est l'équipe officielle. Puis il y a l'équipe médicale de Neymar, il y a l'équipe médicale de Thiago Silva, il y a l'équipe médicale d'Angel Di Maria, il y a l'équipe médicale de Cavani. C'est-à-dire que vous avez là-dedans 3 ou 4 avis différents d'ostéopathes, de kinésithérapeutes, de médecins généralistes, 3 ou 4 protocoles de réathlétisation différents. Et au final, ça aussi, ça crée de l'imbroglio aujourd'hui à Paris. Comment ça se fait qu'on a autant de blessés? Ben évidemment, il n'y en a aucun qui a le même kiné, le même ostéo, le même protocole de réathlétisation.
Eric.
Je rappelle juste la liste des blessés hier soir, les gros qui n'étaient pas là. Neymar, Cavani, Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva sort sur blessure, Meunier sort sur blessure, Bernat est expulsé. Donc Thilo Kehrer, d'après Tuchel, était malade. Donc voilà,
ça, c'est vu.
Je ne dis rien. Et juste une petite stat comme ça en passant, sur 47 matchs cette saison, le PSG a présenté 45 11 de départ différents, volontairement ou pas. Ça c'est le
Martin, pour vous qui avez vu ce match hier, le problème du PSG, on l'a vu se déliter quand même sur cette pelouse, c'est dans les têtes.
Bah ça je sais pas,
plus que dans les jambes
aussi, mais surtout ce qu'on a vu c'est l'absence totale de réaction, puisque quand ils en ont pris un on s'est dit
Mbappé dit manque de personnalité de cette équipe,
ils vont revenir, et en fait on a absolument rien vu sur la seconde période, et même quand on les voyait se replacer ils regardaient les Lillois fêter leur but et ils marchaient dans le rond central, enfin c'était un peu irréel comme image, puisqu'on pensait vraiment qu'il allait avoir une capacité de révolte, même si pour Tourelle il y avait plus grand monde sur le banc à faire rentrer pour donner un électrochoc, mais on s'est dit qu'à 2-1 ils avaient le moyen de revenir, et en fait ça a enchaîné et ça s'est jamais arrêté jusqu'à la fin du match.
Et puis il parle de, enfin c'est Mbappé qui parle de manque de personnalité. Moi je le reprends sur ça en conférence de presse. Il dit que la personnalité c'est par rapport aux joueurs qui sont extrêmement aguerri, donc les Di Maria, etc. et tout. Sauf que par exemple, un Kimpembe qui est pas un bleu, hein, ça fait des.
C'est un bleu.
Oui. c'est pas un petit jeune qui vient de débarquer, bien ça sûr. Fait quand même plusieurs années qu'il est intégré au PSG, qu'il joue des gros matchs.
Ah, oui,
il est notamment champion du monde. Le match de Kimpembe, c'est une catastrophe, de A à Z. Et Kimpembe, c'est pas le petit Kerrer ou le petit Dagba ou le petit Diaby. Et le match de Kimpembe hier, c'est pas le premier cette saison. Donc il y a quand même des joueurs qui sont très en deçà de leur niveau qui devraient afficher. Et finalement, Tuchel, dans son discours avec les médias, passe son temps à les défendre. C'est peut-être sa politique, mais pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas de réaction de la part des joueurs.
Pour rejoindre ce que vous dites tous les deux, c'est que ce problème de ce manque de réaction, cette absence de leader, de charisme et de personnalité, ça date pas du match de Lille ou de cette saison. C'est quelque chose qui est régulier au PSG. Et ce qui est toujours très frappant, c'est qu'au PSG, pourtant, ils ont pas le même entraîneur, ils ont pas toujours les mêmes joueurs. Et pourtant, on a toujours le même problème. Donc, c'est-à-dire que le problème, finalement, il n'est pas intégré aux hommes, mais à l'institution. Et c'est à l'institution PSG, les conditions dans lesquelles les joueurs évoluent, qui font cette absence de révolte et cette absence de personnalité.
Eric ?
Moi, je constate juste une chose par rapport au match d'hier. On a d'un côté Lille, qui a un enjeu extraordinaire, conserver cette deuxième place, objectif Ligue des Champions, ils sont morts de faim. Ils reçoivent la meilleure équipe du championnat, donc ils ont une motivation à 10 milliards de pourcents. Et PSG en face, il lui reste quoi ? Bon, gagner la Coupe de France, d'accord, le titre s'est joué, ils ont encore dans la tête la désillusion Ligue des Champions, donc effectivement, quand ils reçoivent un coup sur la tête, ça doit être difficile de réagir et d'en vouloir à mort pour
le problème, c'est que je pense aussi qu'ils se trompent de combat. On a vu des images sur J+1. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? T'as Tuchel qui saute sur Nasser El Khelaifi et sur Antero Henrique en disant c'est l'arbitre qui nous a déjà tué face à Guingamp. Il nous avait coûté deux pénalties. Il veut pas de nous, etc. Mais
mais attends, c'est pas l'arbitrage le problème hier. Je veux dire, si tu retiens que l'arbitrage de la défaite, tu te trompes. Comme tu te trompes face à Manchester quand tu t'expliques que c'est Kimpembe et sa main, etc. Et le problème, c'est que le PSG est là-dedans. Et comme tu dis, effectivement, Mbappé a le même discours. C'est le même arbitre, il nous en veut, etc. Mais c'est pas ça le problème hier. C'est pas l'arbitrage le problème.
Xavier, pour terminer, vous qui avez une certaine affection pour les Canaries, est-ce que ça va se jouer finalement ce titre du côté de Nantes, alors que la liste des blessés, hein, on l'a là, et c'est ce que disait
Verratti
tout à l'heure.
Verratti suspendu en plus.
En plus, est-ce que ça va être le moment de fêter un sacre?
Je ne suis pas devin, mais effectivement, Nantes a besoin de points pour assurer son maintien. Donc, ils l'ont montré contre Lyon, ils ont encore la rage pour se ressaisir. Et puis, ils ont un petit contentieux à régler avec le PSG, puisqu'ils n'avaient pas été aidés par l'arbitrage lors du dernier match en Coupe de France. Donc, du coup, on peut penser que Nantes va tout faire pour retarder encore le sacre du PSG.
Juste une question à Xavier. À quelle hauteur sautent les défenseurs nantais? Non, tu sais pas?
Oh là là, provocation entre les amis.
On verra Naïm après avoir couru 85 minutes à 10 contre 11 dans un match, on rigolera.
Martin,
non, je dis juste qu'un point suffira pas. Enfin, ils auront 18 points d'avance, il restera 6 matchs. Mais du coup, avec la différence de but, ça devrait le faire. Mais s'il y a match nul, ils seront pas officiellement champions. Officiellement. Donc faudra encore attendre.
Donc il leur faut aller du
gagner. Il faut gagner pour être sûr d'être
du côté.
Il y a plus 67 pour le PSG et plus 26.
Il y a quand même peu de chance.
A priori, ça jouera pas au golaverage.
En Ligue 1, malheureusement, il y a eu au cours du week-end des cris racistes. C'était vendredi soir lors d'un a priori tranquille et banal match de championnat au stade Gaston Gérard. Et puis, donc, à la 77e minute, le capitaine Damien a été insulté. Prince Désir Guano, né à Paris, il n'est pas miénois non plus, d'un papa ivoirien. L'affaire a fait grand bruit, le match a donc été arrêté un moment. Et puis l'auteur a été retrouvé, l'auteur des cris, par la police. Grâce aux caméras du stade, il a passé 48 heures en garde à vue.
À Dijon.
À Dijon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'apparemment, il ne sera pas poursuivi. En tout cas, nous, ce qu'on a choisi de retenir, c'est la réaction de Prince Désir Guano. Écoutez-le.
La meilleure des façons, c'est le pardon, vous voyez, pour qu'il puisse vraiment apprendre et que demain, avec un peu plus de recul, lorsqu'il reverra cette vidéo, qu'il ne reprendra plus. Et il retransmettra ça aux futures générations qui viendront. Parce qu'on est amené à être un. Avec les valeurs que j'ai, je ne peux pas aller porter plainte, vous voyez. Ça serait ne pas donner une seconde chance à l'homme. Donc ça m'a fait mal, hein. Ça fait mal. Je pense que ça fait mal aussi à toutes les personnes qui ont la même couleur que moi. Mais dans la vie, il faut savoir pardonner, vous voyez. Pardonner, et c'est à lui aussi de tirer les bons enseignements de tout ça.
Le pardon, c'est bluffant. Non mais honnêtement, le discours qu'il a tenu, c'est rare parce que il est pas du tout dans l'attaque ou dans le rejet, il est dans l'explication, dans le pardon et dans l'envie de faire avancer les choses. Donc un grand bravo à Prince. Alors après, là où je suis quand même scotché, c'est que vous êtes en train de me dire que l'abruti qui fait des cris de singe, finalement, il ne lui arrivera rien.
Si, la procédure est encore en cours quand même. Hein.
Bah non, mais après, il est pas mis en examen.
De témoin assisté, mais c'est pas fini.
Ah, d'accord, c'est pas fini.
Non, ils n'auront pas, il n'y aura pas de
il
poursuite.
Il n'a pas été présenté.
Il
n'y
a pas
lance,
de plainte, mais effectivement, d'accord. Pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui va se passer.
Et puis surtout, en plus, c'est pas de la com juste pour faire style. Il est vraiment comme ça, Prince Guano. C'est un vrai bon gars. Et les autres, à la fin du match, je peux vous le dire, lui ont dit, mais t'es fou, porte plainte, fais quelque chose, ne serait-ce que pour ta famille, machin et tout. Et il veut vraiment pas. Et pourtant,
non, mais c'est une autre manière aussi de prendre le problème, peut-être, Xavier.
Ouais, moi, je trouve ça.
Parce qu'on en parle régulièrement par rapport à ce qui se passe en Italie.
Oui, c'est une démarche extrêmement courageuse, intéressante sur la pédagogie, effectivement, d'aller dire, pourquoi tu t'y prends comme ça, en prenant à témoin le fautif directement.
Qu'il l'a vu, effectivement.
J'ai trouvé cette démarche, et ça me rappelle, il me semble, c'était WADA. À Nancy ou à Metz, qui avait fait ça il y a quelques années, pareil.
Il jouait à Valenciennes, je crois, à l'époque.
Il était à Valenciennes, il revenait à Metz, c'était peut-être ça, j'ai plus les détails de la situation. Et pareil, il était allé prendre à discuter directement avec les personnes, parce que c'est pas 150 personnes, hein, c'est un ou deux imbéciles, voilà. Et il était allé les prendre à témoin directement, et du coup, celui qui se réfugie dans la foule, dans l'anonymat, comme ça, pour proférer ce genre d'insultes, se retrouve face à la personne. personne qui l'insulte et il sait plus quoi dire, il est totalement désarmé. Et effectivement, je trouve cette démarche extrêmement courageuse et il faut la saluer.
On avait une réaction très intéressante sur notre page Facebook tout à l'heure de l'émission. David Finzel l'avait remarqué en nous disant, et cette personne nous écrit, Abdoulkader, en disant « La propagande de la presse contre le racisme est un facteur d'incitation et de sensibilisation à force de parler de ça. Dans les médias, les supporters racistes s'en servent pour casser le moral des joueurs de l'équipe adverse. » Est-ce que vous pensez que il faudrait ne pas en parler alors?
Ah ben non.
Moi, c'est impossible, de toute façon, vu que c'est filmé.
J'entends le propos de cet auditeur, mais non, évidemment qu'il faut en parler, mais il ne faut pas que en parler, parce que le problème, c'est que à chaque fois, on en parle, et puis il ne se passe rien, et on attend le prochain fait, parce qu'on a bien vu là ce qui s'est passé encore avec Matuidi et Keane. Ouais, c'était déjà Karine, arrivé dans le même stade.
Ce que tu dis est vrai, mais différenciant ce qui se passe en Italie d'en France. En France, c'est un ou deux crétins dans un stade qui vont faire les guignols parce qu'ils sont bourrés. En Italie, c'est des milliers de supporters réunis autour d'une idéologie depuis des années et des années. Oui, c'est pas la même chose.
Mais on sauf peut pas que comparer. Tu ne peux pas pardonner quand même ce qui se passe à Dijon. Dijon, c'est pas la première fois. Je dis pas que les supporters dijonnais sont racistes, mais c'est déjà arrivé à Balotelli. Là, ça arrive à Guano. Donc, c'est-à-dire que effectivement, l'histoire n'est pas la même et fléau est beaucoup plus important en Italie. Mais en attendant, on se retrouve quand même en France à avoir des supporters qui se comportent de la sorte sur plusieurs années. Je te dis pas que c'est les mêmes supporters, mais c'est déjà arrivé à Dijon. Et ça arrive ailleurs, hein, y a pas que Dijon.
Alors la Ligue professionnelle, évidemment, s'est aperçue de cela et elle voudrait agir, ne pas laisser faire. La présidente de la Ligue professionnelle, Nathalie Dubois de la Tour, est revenue sur ce sujet ce matin au micro de nos confrères d'RTL.
Je salue la réaction donc de Prince Guano, l'action des officiels et des clubs. Tous les acteurs du jeu ont fait preuve d'un sang-froid qui a permis d'interpeller et d'identifier donc l'auteur présumé des faits. Donc maintenant, place à la justice. On a deux plans. On a un plan disciplinaire. Donc la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit mercredi prochain. Donc la LFP ne peut sanctionner individuellement un supporter, mais elle peut sanctionner les clubs en tant qu'organisateurs de la rencontre. Maintenant, il va falloir regarder ce que va faire la commission de discipline et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la justice. Et au niveau de la justice, sur le plan judiciaire, avec la LICRA, nous allons maintenant voir quelles sont les réactions à mener. Les chants, les insultes homophobes comme le racisme sont inacceptables dans nos stades. Nous devons tout faire pour les éradiquer. Moi, je pense qu'il faut profiter de la prise de conscience collective pour accélérer nos efforts sur ces sujets, sur les sujets de la lutte contre le racisme et de l'homophobie, et essayer, à travers le football, contribuer à faire évoluer les mentalités. Alors, j'ai pas de baguette magique pour pouvoir éradiquer l'ensemble de ce fléau. Sanctions et prévention. La prévention me semble être la plus importante, puisque c'est à travers l'éducation et la sensibilisation qu'on peut expliquer que les propos blessent et qu'ils n'ont rien à faire dans un stade.
Voilà le discours de Nathalie Bois de La Tour. Sanctions, prévention, sensibilisation, éducation. Alors on a l'impression qu'on a déjà entendu ça. On a quand même une ministre des Sports qui...
Il y a un élément intéressant dans ses déclarations de ce matin, c'est qu'elle explique que la Ligue ne peut pas sanctionner quelqu'un individuellement. Et je pense que c'est là où est le vrai souci. C'est parce qu'on sait que c'est très peu de personnes qui sont l'objet de ce genre d'insultes. Et donc, ça veut dire que les autorités du foot ne peuvent pas. Elles ne sont obligées de sanctionner en bloc. Donc, elles ferment une tribune. Donc, elles sanctionnent effectivement 5, 10, peut-être pas 15 000 personnes, mais 5 ou 10 000 personnes parce qu'on ferme une tribune. C'est arrivé à Marseille. C'est arrivé, bon, pour d'autres raisons, mais c'est arrivé dans plusieurs clubs déjà cette saison. On adopte une sanction collective parce qu'on n'arrive pas à identifier un ou deux ou voire 10 personnes. Or, on voit par exemple en Angleterre où depuis les années 80, ils sont beaucoup plus stricts sur toutes ces mesures de discipline pour le hooliganisme à l'origine, eh bien, ils sont capables d'identifier tout de suite la personne et de la mettre hors du stade. Et donc là, on est beaucoup plus efficace dans le mode de fonctionnement. Là, les autorités françaises dans le monde du football, comme l'expliquait la présidente de la Ligue, dépendent, elles, de la justice française. Et on sait que la justice française, la justice commune à tout le monde, est très très longue dans ces procédures.
Bon, de toute façon, on y reviendra, on verra quelles sont les conséquences. En tout cas, on voulait saluer Prince Désir Guano, le capitaine de l'équipe d'Amiens. Amiens qui va continuer en Ligue 1.
On l'espère.
Oui, bon. Il mériterait.
Radio Foot au cœur.
La CAN 2019 sur RFI.
Caire. Le Caire, nous n'y sommes plus, mais nous en venons donc. Et nous avons assisté au tirage au sort dans le cadre très pyramidal hein, de la CAN 2019. La chance de rencontrer donc de nombreux acteurs de cette compétition africaine qui se déroulera donc à 24 équipes pour des groupes où on a quand même l'impression que, vu le tirage au sort, deux équipes dominent. Alors, est-ce vraiment une nouvelle compétition que cette CAN à 24? Le sélectionneur du Maroc qui figure parmi les favoris est dans le groupe D. Alors, un groupe pas facile hein, avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Eh bien, Hervé Renard avoue que la pression, ça peut avoir du bon.
Personne ne comprendrait qu'on ne se qualifie pas pour le second tour. Donc, je suis là, je vais assumer ça, oui. Cette pression. Mais laissez-moi faire, on va réussir à faire de belles choses.
Une CAN à 24, ça change tout, vous qui avez l'habitude des CAN et qui en avez déjà gagné?
Au contraire, ça laisse 4 équipes qui vont finir 3e la chance de se qualifier. Ça fait un tour supplémentaire.
Un match de plus.
Un match de plus, de la fatigue, des cartons. Donc des conséquences qui peuvent être pénalisantes pour la suite, mais la meilleure équipe devra être la plus performante dans tous ces compartiments et puis on viendra avec des ambitions. Déjà se concentrer sur le premier tour qui est un groupe difficile. J'ai l'habitude de rencontrer la Côte d'Ivoire depuis que j'en suis parti. Ça nous a pour l'instant bien réussi. Espérons que ça continue. Et puis méfiance contre l'Afrique du Sud et la Namibie. Donc il va falloir beaucoup de méfiance. Mais on se doit d'être performant du début jusqu'à la fin de la compétition en espérant le meilleur possible pour le Maroc.
Et la pression, Hervé Renard, quand on en a déjà gagné 2, c'est compliqué?
Non, c'est plus facile. Quand on débute, on a la pression parce que vous savez, je vais vous dire une chose, même quand on vient avec une équipe moyenne, il y a des millions de fans qui attendent que vous battiez tout le monde quand même. Donc il vaut mieux venir avec une équipe assez forte, avoir de quoi battre beaucoup de très bonnes équipes. Et quand on veut gagner une compétition, il faut battre beaucoup de très très bonnes équipes. Donc voilà, on sait ce qui nous attend. On ne sera pas les seuls à vouloir la même chose. Il y a pas mal d'équipes favorites, mais je pense que l'équipe la plus difficile à battre sera l'Égypte, parce que l'Égypte chez elle est redoutable, donc tout le monde en est déjà conscient.
Voilà Hervé Renard d'attaque avec ses Lions de l'Atlas. Cette équipe marocaine, Naïm, finalement on pense à ce tirage au sort, on sait que c'est en fait l'ordre FIFA qui a été appliqué et respecté pour ce qui est de ce tirage au sort. Est-ce que ça veut dire que finalement le premier tour ça va être pour s'observer et que ça sert à rien?
Alors il sert à rien non, parce que c'est quand même ce qui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale. Après que le niveau soit dilué, parce que à 24 équipes on a des équipes évidemment plus faibles que quand on la joue à 16, oui forcément, et puis le format de la compétition, c'est-à-dire qualifier les deux premiers plus 4 des 6 meilleurs troisièmes, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de beaucoup performer pour se qualifier.
Oui, donc c'est ce qu'il laisse sous-entendre.
Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre assez terrible sur la plupart des groupes, mis à part celui du Maroc, mais il y a un déséquilibre assez terrible sur la plupart des groupes. Et en plus de ça, il y a un format de compétition qui peut vous permettre de vous qualifier, mais comme à l'Euro 2016, avec pourquoi pas une victoire et deux nuls, ou même 3 matchs nuls selon ce qui se passe. Donc le niveau va être moins important, le niveau est dilué. Donc voilà, il faudra attendre les huitièmes, peut-être même les quarts, pour commencer à avoir des affiches intéressantes. Mais ça, ça va avec la réforme de la compétition. Hein. C'est pareil pour l'Euro et ça sera pareil pour le Mondial à 48.
Hein. Ouais, c'était pareil pour la Coupe d'Asie en début d'année, là, au mois de janvier. Donc d'élargir ces plateaux à 24 équipes comme
ça favorise finalement les favoris.
Non, ça nivelle un peu les chances des équipes moyennes, parce que les meilleurs troisièmes peuvent accéder aux huitièmes de finale. Et en fait, après, comme c'est le tableau des huitièmes de finale est aléatoire, parce qu'on connaît pas à l'avance les meilleurs troisièmes, c'est en fonction des résultats des autres troisièmes qu'on connaît le tableau au dernier moment. Donc après, vous pouvez avoir parfois, par le jeu du tirage, un huitième de finale avec deux outsiders, alors que vous allez avoir deux favoris face à face. Donc le principal intérêt de ce premier tour, en fait, ça va être la deuxième journée, parce que le tableau, le tirage de cette Coupe d'Afrique des Nations fait en fait que les têtes de série de chaque groupe vont se rencontrer lors de la deuxième journée. Donc ils vont avoir une première journée un peu un tour de chauffe, et la deuxième journée qui va déterminer la première et la deuxième place a priori de chaque groupe. Donc qui va positionner les favoris dans le tableau des huitièmes de finale, avec donc la perspective d'aller un peu plus loin que s'ils terminent seulement deuxième. Voilà le principal intérêt pour moi de ce premier tour.
Oui, Karine, on avait connu ça, c'est ce que disait Naïm en 2000 en
en 2016.
En 2016, lors de l'Euro en France, où tout d'un coup on avait une compétition très élargie et finalement le premier tour, tout n'était pas passionnant.
Ah bah oui, le Portugal, et tu prenais cet exemple, a fait 3 matchs nuls pour sortir de son groupe, pour finalement gagner l'Euro et être champion d'Europe.
Et gagner tous ces matchs.
L'Islande, la Hongrie, c'était pas des grands matchs.
Du coup, il y aurait une gestion peut-être un peu différente, une gestion du premier tour, déjà physique.
À un moment donné, c'est
sous une grande chaleur.
Si tu peux te qualifier avec 3 matchs nuls, tu fais une première journée où tu bats une petite équipe dans le groupe du Nigeria, de la Guinée. Vous avez Madagascar et le Burundi, je crois.
C'est ça.
Deux équipes qui n'ont pas fait la CAN, qui n'ont jamais fait la CAN. Bon, vous avez un premier résultat très satisfaisant. Vous pouvez déjà faire tourner sur le deuxième match pour reposer vos joueurs. Et quand bien même vous auriez une contre-performance, vous pouvez vous rattraper sur le troisième match.
Donc plus de calcul.
Donc, oui, bah, évidemment que vous allez avoir beaucoup plus de calcul. Vous savez, selon les sélections et le niveau de forme dans lequel arrivent les joueurs, vous allez avoir quand même des préparations tronquées, peut-être pas beaucoup de matchs amicaux pour s'étalonner. Bah, vous allez faire ça à la route pendant la phase de poule.
Cette deuxième journée, ce sera les chocs. C'est toutes les têtes de série qui se rencontrent.
Ce que je veux dire, c'est
donc si tu veux terminer premier, tu peux pas négliger le deuxième match. En revanche, forcément, à ce moment-là, les vainqueurs feront tourner sur le troisième match. Mais ça, c'est assez classique.
Vous parliez justement de ce groupe B qui sera celui d'Alexandrie, Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi. J'ai entendu Alain Giresse dire « Ah, si seulement nous étions tombés dans le groupe B ». Écoutons Gernot Rohr, qui en est donc à sa troisième CAN avec une troisième équipe. Gernot Rohr, on va dire le malgache.
Ça sent pas de jouer contre des pays qui sont là pour la première fois, comme le Burundi, Madagascar. On va se retrouver avec des francophones, mais au Nigeria, je dois toujours parler anglais. Mais là, ça va être rigolo. Ce qui est spécial pour moi, c'est Madagascar, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ma femme est malgache, mes deux enfants sont germano-malgaches ou franco-malgaches, mais en France, donc ça va être quelque chose. Il va y avoir de la passion, pas seulement dans les stades, et dans les deux pays, mais aussi à la maison.
Ça va être une CAN très particulière, alors, pour vous.
Ah oui, 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 c'est sûr. On avait plaisanté en disant, quand j'étais en...
Zelle qui m'a... On vous dit merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, et à demain.
C'était Radio Foot International, avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris. 7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain,
le rendez-vous des tchatcheuses, trois femmes journalistes de trois continents commentent l'actualité.
Mercredi,
cuisine africaine et nouveaux concepts culinaires, peut-on vraiment tout adapter?
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU.
RFI.
Parcourez le site RFI Savoir.
Découvrez la bibliothèque virtuelle de RFI pour tout comprendre sur l'histoire, les sciences, l'économie, l'environnement, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers pour approfondir vos connaissances ou faites les activités d'écoute pour apprendre et enseigner le français sur savoir au pluriel .rfi.fr.
RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.
Vous écoutez RFI, il est 18h à Paris et 18h à Kigali. Le journal vous est présenté par Florent Guignard. Bonsoir Florent.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. À la une, mensonges d'État et complicité de crimes de guerre. Les accusations se multiplient contre le gouvernement français depuis la révélation d'une note du renseignement militaire français. Des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite ont bien été utilisées contre des civils dans la guerre au Yémen.